Thomas Hardy. Le maire de Casterbridge. Chapitre 16. C'est ainsi que l'attitude d'Henchard se faisait de jour en jour plus réservée à l'endroit de Farfrae. Il se montrait courtois, trop courtois même, et l'Écossais s'étonnait des façons cérémonieuses affectées par un homme un peu fruste jusque-là, dans sa sincérité chaleureuse. Le marchand de blé ne posait plus guère ou plus jamais le bras sur l'épaule du jeune homme, pour l'écraser à demi sous son amicale pression. Il avait cessé de venir chercher Donald dans son logis, en le hélant dans le couloir. « Eh, Farfrae, mon garçon, venez donc dîner avec nous. Ne vous confinez pas dans votre solitude. » Mais il n'y avait pas pour cela grand changement dans la routine des affaires quotidiennes. Ainsi coulait leur vie, lorsqu'on fit un jour passer dans tout le pays une proposition de réjouissance publique pour célébrer un récent événement national. Casterbridge, volontiers paresseux, fit quelque temps la sourde oreille. Mais un jour, Donald Farfrae aborda le sujet et demanda à Henchard s'il aurait quelque objection à lui prêter des bâches, ainsi qu'à certains de ses compagnons. Il voulait, au jour indiqué, organiser une petite fête dont l'entrée serait fixée à temps par tête et cherchait à s'assurer d'un abri contre la pluie. « Prenez autant de toiles que vous voudrez, » acquiesça Henchard. Voyant son régisseur engagé dans l'affaire, le marchand de blé se piqua d'émulation. C'était, se disait-il, pure négligence de sa part, en tant que maire, de n'avoir pas encore saisi le conseil d'un projet de fête. Mais ce diable de Farfrae s'était si bien hâté qu'il enlevait aux autorités de la ville toute chance d'initiative. Il n'était pas trop tard, cependant, pour organiser des réjouissances, et Henchard résolut, après réflexion, de se charger de toutes les responsabilités si les autres conseillers voulaient le laisser faire. Ce à quoi ils consentirent volontiers, étant pour la majorité de vieux encroûtés qui témoignaient d'un goût prononcé pour une existence sans tracas. Henchard commença donc ses préparatifs pour une organisation brillante et digne de la vénérable ville. Quant au pauvre projet de Farfrae, s'il ne les oublia pas, c'était pour se dire de temps en temps « Faire payer tant par tête pour l'entrée, c'est bien une idée d'Écossais. Qu'est-ce qui va vouloir donner un sou ?» Les distractions que le maire comptait offrir à ses administrés devaient être entièrement gratuites. Il était si bien arrivé à se reposer de toutes choses sur Donald qu'il eut de la peine à ne point lui demander son avis en cette circonstance. Mais il sut se contraindre à force de volonté. « Non, se disait-il, Farfrae aurait si bien suggéré des idées avec sa claire intelligence qu'Henchard tomberait malgré lui au rang de second violon et serait réduit à accompagner les chansons de son régisseur. » Les projets du maire rencontrèrent une approbation générale, surtout quand on sut qu'il entendait en supporter tous les frais. Tout près de la ville s'élevait un tertre gazonné, entouré de remblais sur ses quatre faces. Carrés ou non, les ouvrages de ce genre étaient aussi communs aux alentours de Casterbridge que les murs des buissons. C'est là que se tenaient toutes les fêtes, réunions ou foires à moutons, dont l'importance ne s'accommodait pas de l'espace restreint des rues. Le tertre, qui commandait une vue étendue sur des lieux de campagne, dévalait sur un de ses côtés en pente douce vers la Froome. C'est cet aimable endroit qu'Henchard avait choisi comme scène de ses futurs exploits. Il fit placer dans toute la ville de grandes affiches roses, annonçant des jeux de toutes sortes, et mit en branle, sous sa propre surveillance, une petite troupe de travailleurs. Ils dressèrent des mâts de cocagne, garnis à leur sommet de jambon fumé et de fromage du pays. Ils disposèrent des rangées de claies pour les sauteurs. Ils jetèrent sous la rivière une perche suiffée, dont l'autre bout tenait attaché à un cochon vivant, destiné à devenir la propriété de celui qui saurait franchir l'eau. On trouverait aussi brouette et âne pour les courses, scène pour les joutes de boxe, de lutte et autres jeux violents, sac pour empêtrer les coureurs. Enfin, soucieux de ses principes, Henchard offrait un thé monstre auquel étaient invités gratuitement tous les habitants de la ville. Les tables s'allongeaient parallèlement au talus intérieur du rempart et des auvents les abritaient. Le maire considérait dans ses allées et venues l'aspect peu engageant des préparatifs de Farfrae sur l'avenue de l'Ouest. L'Écossais avait disposé des bâches disparates et bariolées, en les accrochant sans se préoccuper de l'effet produit aux branches des arbres. Henchard s'était rassuré à l'avance et confiant dans la supériorité de ses propres dispositions. Le grand jour arriva. Le ciel, remarquablement clair depuis un ou deux jours, était voilé ce matin-là. le temps menaçait et le vent donnait une sensation de pluie imminente. Henchard regrettait de s'être trop fié à la persistance du beau temps, mais il était trop tard pour modifier ou renvoyer la fête. L'on mit la dernière main aux préparatifs. À midi, une petite pluie fine et égale se mit à tomber, commençant et grossissant si insensiblement qu'il eût été difficile de dire quand le beau temps avait cessé pour faire place à la pluie. Une heure plus tard, la bruine s'était résolue en une pluie torrentielle et monotone qui s'abattait sur la terre comme un châtiment du ciel dont on aurait pu prévoir la fin. Un bon nombre de personnes s'étaient pourtant héroïquement réunies sur le tertre, mais à 3 heures, Henchard comprit que ses projets étaient voués à un irrémédiable échec. En haut des mâts, les jambons laissaient goûter leur fumée sous forme d'une liqueur brune, le cochon tremblait sous la pluie, les fibres du sapin perçaient sous les nappes des tables, car les auvents laissaient librement entrer la pluie, et c'eût été à cette heure entreprise inutile que d'en clore les côtés. Au-delà de la rivière, le pays disparaissait, le vent jouait de la harpe éolienne sur les cordes des tentes, et sa violence se fit telle que les toiles furent brusquement plaquées sur le sol. Ceux qui avaient cherché un abri sous les auvents durent ramper sur les pieds et les mains pour s'en dépêtrer. Vers 6 heures, pourtant, la tempête s'apaisa, et une brise fraîche sécha l'humidité sur les pentes herbeuses. On jugea possible, en somme, d'exécuter le programme. Les tentes furent redressées, les musiciens sortirent de leur abri, et l'on enleva les tables pour faire place aux danseurs. Mais où donc est le public, s'étonna Henchard, en ne voyant, au bout d'une demi-heure, que 2 hommes et une femme prêts à danser. Les boutiques sont fermées, pourquoi ne vient-on pas? Ils sont chez Farfrae, sur l'avenue de l'Ouest, répondit un conseiller, qui se tenait près du maire, sur le terrain de la fête. Quelques-uns, je veux bien, mais tous les autres. Tous ceux qui sont sortis de chez eux sont là-bas. Alors, ce sont des imbéciles. Henchard s'éloigna, l'air sombre. Un ou deux jeunes gens s'essayèrent bravement à grimper au mât pour ne pas laisser perdre les jambons, mais il n'y avait personne pour applaudir à leurs efforts, et la scène prenait un aspect si lamentable que le maire ordonna d'en finir et de clore la fête. Les victuailles seraient distribuées aux pauvres de la ville. Et il ne resta bientôt plus sur le tertre que les claies, les mâts et les tentes. Henchard retourna chez lui et prit le thé avec sa femme et sa fille. Puis il sortit au crépuscule. Il vit, dans la pénombre, tous les promeneurs se diriger vers un point particulier de l'une des avenues. Henchard les suivit et entendit bientôt le son d'instruments à cordes qui sortaient de l'enceinte édifiée par Farfrae, le pavillon, comme il l'appelait. En s'approchant, le maire vit que l'on avait ingénieusement dressé, sans cordes ni perches, une tente gigantesque. On avait choisi le point le plus épais de l'allée de platanes, dont les rameaux formaient au-dessus de l'avenue un impénétrable lacis. La toile fixée aux branches dessinait une voûte cintrée. L'extrémité exposée au vent était close, l'autre restait ouverte. Henchard fit le tour de la tente et put voir à l'intérieur. On y dit d'une nef de cathédrale, dont un pignon aurait été abattu, mais la scène qui s'y passait n'avait rien de religieux. Une bourrée ou une gigue quelconque animait les danseurs, et le paisible Farfrae, costumé aujourd'hui en Highlander farouche, virait et sautait en mesure avec les autres. Pendant un instant, Henchard ne put s'empêcher de rire, mais il remarqua bientôt l'admiration fervente que reflétaient pour l'Écossais les visages féminins. La gigue achevée, on réclama une danse nouvelle, et Donald, un instant sorti pour reparaître sous ses vêtements habituels, trouva aussitôt un nombre illimité de danseuses, chacune des jeunes filles, se montrant toute prête à accueillir un homme qui se montrait aussi apte que celui-là à la poésie de la danse. La ville tout entière se pressait sur la promenade, car les habitants n'avaient jamais encore rêvé salle de danse aussi plaisante. Élisabeth et sa mère faisaient partie des spectateurs. La jeune fille restait pensive, mais s'intéressait fort au spectacle, et dans ses yeux s'allumait une lueur de désir et d'attente, comme si la nature, pour les peindre, avait emprunté les pinceaux du Corrège. Les danses se poursuivaient avec une ardeur toujours égale, et Henchard attendait, en se promenant de long en large, que sa femme fût disposée à rentrer. Il ne voulait pas rester en pleine lumière, mais l'obscurité lui ménageait de désagréables surprises, car il y entendait des réflexions qui commençaient à se faire trop fréquentes. « La fête de M. Henchard n'était rien à côté de celle-ci, » disait un homme. « Il faut être complètement toqué pour s'imaginer qu'on va aller dans un endroit aussi lugubre un jour pareil. » Ce à quoi l'autre répondit que, de l'avis général, ce n'était pas seulement dans les faits de ce genre que le maire faisait des bourdes. Où en seraient ses affaires sans ce garçon-là? C'est la fortune qu'il a envoyée à Henchard, dont les comptes étaient un vrai fourré broussailleux quand M. Farfrey est arrivé. Pour compter ses sacs, il les rangeait comme une palissade et les marquait à la craie. Il mesurait les meules en longueur de bras, pesait ses bottes au nom de charge, évaluait son foin d'un coup de tête et fixait ses prix avec un juron. Tandis que maintenant, ce garçon-là fait tout comme un savant, avec chiffres et mesures. Et le blé qui sentait quelquefois si fort la souris que les gens pouvaient en reconnaître l'espèce en mangeant leur pain. Farfrey a trouvé un si bon moyen de le purifier que l'on ne soupçonnerait pas la moindre bête de s'y être promenée. Oh oui, tout le monde ne parle que de lui et de la peine que M. Henchard se donne pour le garder, conclut l'homme. Mais il ne le gardera pas bien longtemps quand même, reprit le premier interlocuteur. Non, certes, grommela entre ses dents Henchard, caché derrière un arbre. Ou bien il n'y aurait plus qu'à renoncer à la situation et à la réputation que j'ai su conquérir depuis 18 ans. Il retourna vers le pavillon. Farfrey dansait avec Elizabeth Jane, une danse singulière, vieille danse de campagne, la seule qu'elle connût. Le jeune homme s'imposait une sobriété de gestes en rapport avec l'attitude réservée d'Elizabeth, ce qui ne l'empêchait pas de faire briller aux yeux des assistants les dessins des petits clous qui garnissaient ses semelles. Elizabeth s'était laissée entraîner par la musique, une musique au rythme rapide, bondissant, sautillant, de notes basses, sur la corde métallique des violons qui rebondissaient tout à coup sur la chanterelle comme une montée et une descente éperdue d'échelle. Miss Emleod Dare, c'était le nom de cette danse très populaire en Écosse, au dire de Farfrey. Quand elle fut finie, la jeune fille chercha dans les yeux d'Henchard une approbation qu'elle ne trouva pas. Le maire ne paraissait pas la voir. « Dites donc, Farfrey, fit-il, en homme qui a l'esprit autre part, j'irai moi-même au grand marché de Port-Brady demain. Vous pouvez rester chez vous pour ranger votre mal et reposer vos genoux après toutes vos gambades. » Et il fixait sur l'Écossais un regard hostile, commencé en sourire. D'autres notables s'approchaient, et Donald se retira à l'écart. « Eh bien, Henchard, fit l'alderman Tubber, en appuyant comme un couteau à fromage son pouce sur la poitrine du maire. « Voilà une rude concurrence. Jacques est aussi fort que son maître, hein ? Il vous a coupé l'herbe sous les pieds. »« Voyez-vous, monsieur Henchard, fit l'avocat, en ami bien intentionné aussi, votre erreur, c'est d'être allé vous placer si loin. Vous auriez dû lui prendre son idée et installer vos jeux dans un endroit abrité comme celui-ci. Mais vous n'y avez pas pensé, et c'est pour cela qu'il vous a enfoncé. » « C'est lui qui va bientôt prendre le dessus et tout faire marcher chez vous, » ajouta le jovial monsieur Tubber. « Non pas, » protesta Henchard d'un ton sombre. « Il ne fera rien marcher du tout, car il va me quitter incessamment. » Et, regardant Donald, qui s'était rapproché, « Les services de monsieur Farfrey comme régisseur chez moi tirent à leur fin, n'est-ce pas, Farfrey ?» Le jeune homme, qui lisait aussi clairement que dans un livre, entre les plis et les rides du rude visage d'Henchard, acquiesça tranquillement, en expliquant simplement, devant l'expression des regrets et de la surprise des assistants, que M. Henchard n'avait plus besoin de ses services. Henchard rentra chez lui apparemment satisfait, mais le lendemain matin, quand sa fureur jalouse fut calmée, le cœur lui manqua à la pensée de ce qu'il avait fait. Il fut plus troublé encore en voyant que cette fois, Farfrey était décidé à le prendre au mot.